J'ai vraiment la joie un matin de vous amener la parole de Dieu. Et la série s'appelle Réveil. J'aimerais qu'on voit la diapo là, du réveil. Oui, c'est-tu beau, hein? J'aime la symbolique de ça, plonger vers la lumière. Ce matin, je disais dans ma lecture quotidienne, comme Luigi l'a dit tantôt, si les ténèbres sont en toi, si la lumière qui est en toi est ténèbre, combien sont grandes tes ténèbres? Imaginez, tu sais, de plonger dans la lumière de Dieu. Merci, Mélina. Merci pour ton travail de graphisme. Ils sont fantastiques. Ils font un travail exceptionnel. Sylvie, qui est là aussi, ils font vraiment une équipe créative vraiment super. Puis la gang de la projection qui ça a l'air de rien, mais ils rament fort. On les voit pas, on les entend pas. Des fois, on sait même pas qu'ils existent. C'est la preuve qu'ils font un bon travail et qui nous permettent de pouvoir avoir là, ces beaux visuels-là. Là. Merci. Merci. Vraiment. Et on parle de réveil. Là, je me disais, bon, réveille-toi, réveil, on peut faire plein de jeux de mots avec ça, mais c'est quoi un réveil? Je m'en vais dans le dictionnaire et là, ça me disait passage de l'état de sommeil à l'état de veille. Donc, un prérequis pour un réveil, c'est le sommeil. C'est bon, tu sais, ça commence, là, on y va là, par étapes. Un prérequis pour un réveil, c'est le sommeil. Mais là, on parle pas d'un sommeil réparateur comme, tu sais, as-tu bien dormi cette nuit, ça a bien été, t'es pas trop levé souvent, les enfants ont pas trop pleuré, tu sais, vous connaissez ça. Ben non, non, un sommeil spirituel, c'est pas réparateur pantoute, là. On est ailleurs. Un sommeil spirituel, c'est comme cette espèce de léthargie-là qui nous fait accepter une médiocrité, qui nous fait passer à une vitesse inférieure. Tout d'un coup, les banalités deviennent bien importantes. On se met à mettre le focus sur des choses qui n'ont aucune importance pour Dieu. Le sommeil spirituel nous fait perdre le sens de pourquoi on est éveillé. On oublie ça. On oublie pourquoi on existe pour Jésus. On se met à rêver. Bien, c'est ça qui se passe dans le sommeil, on rêve. On rêve de nous. Nous, wow! On est rendu tellement bon. On est rendu tellement meilleur. On est rendu tellement quelque part. Et puis là, on est couché sur notre oreiller, là, dans notre lit, hyper confortable. Puis on rêve. Mais il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. La réalité, c'est comme ça, c'est un sommeil. Être en mission, ça perd complètement son sens. Et est-ce que le Québec a besoin de gens réveillés aujourd'hui en 2019? On peut dire mon Québec, hein? Tu peux le dire, mon Québec. Mon Québec, je veux l'entendre. Oui, c'est mon Québec, ma province, 8 millions de personnes. Des fois, j'ai l'impression que c'est un peu comme Nénive, spirituellement, sans savoir qu'est-ce qui est à droite puis qu'est-ce qui est à gauche. Et même pas 1% de chrétiens. Est-ce qu'on a besoin d'un réveil? Est-ce qu'on a besoin d'un réveil? C'est pas juste une urgence. Et je peux pas croire que Dieu a oublié le Québec. Dieu est là, il voit tout ça. Et il sait combien le Québec a besoin de gens réveillés. Mais ça commence ici. Ça commence avec nous autres. Ce matin, c'est une invitation. Une invitation à quoi? Une invitation à vivre un réveil. À vivre le réveil quotidien, à chaque jour. Je me lève de mon lit et je prends cette décision-là de vivre le réveil dans ma vie. Durant ma période de veille, je suis doublement réveillé. Réveillé avec mon corps, réveillé avec ma tête, réveillé spirituellement. On veut ça. Mais le texte aujourd'hui qu'on va lire, c'est Judith qui va nous lire ça, nous parle de 5 invitations. C'est ce qu'on va voir, 5 invitations à une transformation profonde dans ma vie pour vivre ce réveil-là quotidiennement. Écoutez bien le texte, préparez-vous à être transformé, et quand vous allez sortir d'ici, on prie que vraiment vous soyez complètement bouleversés et que Dieu vous amène à vivre un réveil à quotidien. Prions. Seigneur, ce matin, nos cœurs sont ouverts devant toi. Nos cœurs sont grandement ouverts. On veut ouvrir nos oreilles spirituelles, que tu parles à notre cœur pour que tu fasses la transformation qui doit être faite à l'intérieur. Peut-être qu'on est en train de dormir et que là, on entend cette voix-là d'un gars qui prie comme si c'était une voix au loin, comme un petit chien qui jappe là, des fois la nuit. Seigneur, on veut que cette voix-là soit la tienne, la voix de l'Esprit qui nous réveille, et que si je suis déjà réveillé, Seigneur, que j'ai l'encouragement ce matin à vivre un réveil quotidien à chaque jour. Merci Jésus, merci d'être là, merci d'être dans notre vie, et c'est en ton nom qu'on prie. Amen.
Le passage de ce matin est tiré de Ésaïe 55, une nouvelle édition de Genève. Ésaïe 55, nouvelle édition de Genève. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasit pas? Écoutez-moi donc, vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine, s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce, croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable.
Amen. Wow! J'étais tellement content d'avoir ce texte-là matin. Mais quel texte! La Bible, d'un couvert à l'autre, c'est la parole de Dieu, mais il y a des passages qui sont, en tout cas, ça me parlait. Quelle invitation que Jésus nous demande à travers ce texte-là. On pourrait s'éterniser. On riait tantôt, jusqu'à quelle heure t'en as? Je pourrais durer ça jusqu'à 4 heures l'après-midi, 5 heures. C'est un texte tellement riche. Mais on va parler d'invitation. On voit 5 invitations à travers ce texte-là pour nous amener à vivre ce réveil constant, quotidien dans notre vie. La première invitation est assez simple. C'est le Seigneur nous invite de passer de la belle pro au banquet de l'agneau. Bon, il y en a une à côté, là, j'ai rien contre la belle pro, vous savez, tu sais, mais vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasit pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. Quand on répond à l'invitation de Jésus, quand on répond à l'invitation de Dieu, le menu change. Le menu change. C'est plus la même chose, là. On réalise que ce qui nous nourrissait avant était ni plus ni moins que de la malbouffe ou de la junk food, excusez l'anglicisme, mais je pense que tout le monde connaît, c'était du fast food spirituel. Et là, on ne parle pas de ce qui nourrit mon corps. Déjà, on nourrit notre corps des fois avec toutes sortes de choses qui ne sont vraiment pas nourrissantes. Hein? Des saucisses hot dog, des patates frites, puis des chips, puis toute l'affaire. Vous savez que ce n'est pas très bon pour la santé. Oui. Mais on nourrit aussi notre âme à travers ce qu'on laisse entrer dans notre âme, nos yeux, nos oreilles, ce qu'on regarde, ce qu'on laisse filtrer, comment on vit nos fantasmes et nos vies, nos rêves personnels peuvent être toxiques. On nourrit notre âme avec tout ce qui nous tombe sous la main. Et bien souvent, comme pour les patates frites, les saucisses hot dog, ça peut être vraiment pas un menu équilibré. Ça peut être même néfaste. On s'habitue, hein? On s'habitue. Notre âme est extrêmement résiliente. Et quand on ne connaît rien de mieux, on finit par croire que c'est ça, bien se nourrir. On se remplit de relations toxiques. On se remplit de gens qui des conversations superficielles où on va sur les réseaux sociaux et on a l'impression qu'on a des relations là où notre valorisation devient le nombre de likes qu'on a mis sur ma photo de je sais pas trop quoi, et là, ça devient mon identité, imaginez, et là, je peux être complètement déprimé, ou je vais me réfugier dans des jeux vidéo, une bulle virtuelle qui, en fait, est vraiment pas la réalité, mais ça devient ma réalité à moi, ou encore, après une journée hyper occupée, j'arrive et j'allume la TV, je dis, je mets mon cerveau à off, vous avez déjà entendu ça? Hein, je me mets devant la TV. Non, ton cerveau n'est pas off. Tu fais juste imbiber l'éponge de ton âme de tout ce que la télé va te laisser rentrer. De quoi tu nourris ton âme un matin? Hein, on le sait, que dans notre fort intérieur, on a besoin de plus puis on a besoin de mieux. On le sait. Depuis le début de mes années pastorales, je rencontre des gens et des gens et des gens et on arrive toujours à ce constat-là. On a besoin de plus, on a besoin de mieux. J'ai un ami qui vient d'Haïti, un bon ami. Il vient du nord d'Haïti. Et il me racontait une histoire vraiment triste. Là. Il y a eu un moment donné, il y avait une famine et les enfants se nourrissaient de galettes de terre, de la boîte. Ils se nourrissaient de galettes de boîte. Parce qu'au moins, ça faisait de quoi dans l'estomac, tu sais? Parce qu'il n'y avait rien à manger. Le peu d'argent qu'il y avait, il achetait des pâtes de poulet, tu sais, la pâte, là, pour les faire bouillir, pour essayer d'avoir un bouillon de protéines quelque part. Imaginez, là. Et là, il y a eu quelqu'un qui a eu une idée de génie. Lui, il avait un petit four. Fait qu'il a décidé de faire cuire les galettes de boîte au four. Fait que comme ça, il pouvait les vendre. Et savez-vous quoi? Il y en a qui achetaient les galettes de boîte cuites. Et là, je dis à Charles, mais pourquoi les gens achètent ça? Il dit, bien, ils ne connaissent rien de mieux. Ils ne connaissent rien de mieux. Je ne sais pas où tu es rendu dans. Puis je ne sais pas où tu fais ton épicerie spirituelle, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas avec quoi tu nourris ton âme. Je ne sais pas ce que tu manges en espérant grandir à l'intérieur puis te garder en santé spirituelle. Mais ce que je sais, c'est que notre société nous offre un beau gros buffet qui semblent être de l'abondance, mais qui finalement sont juste du junk food, qui finissent par nous abrutir, puis nous centrer juste sur nous-mêmes, et nous appauvrir spirituellement. Jean 6, 35. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » C'est là que tout part, à Jésus. Le vrai repas, la vraie place, le vrai moment où on peut vraiment se remplir et se remplir à satiété. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mes succulents. Quand je réponds à l'invitation de Jésus, ma faim est comblée. Ma faim est comblée. Vous l'avez vécu? Amen! Quand je réponds à l'invitation de Jésus, ma faim est comblée. Je trouve un fleuve quand je cherche un verre d'eau. C'est plus que tout ce que je pourrais jamais assimiler. C'est Jésus. Peut-être que tu as franchi le seuil de la famille de Dieu. Peut-être que là, maintenant, tu es un chrétien affermi, puis peut-être qu'à un moment donné, avec les années, tu es retourné tranquillement. Ben, tu as un petit McDo de temps en temps, puis un petit sac de chips, puis un petit ci, puis un petit ça, tu sais, vous comprenez l'image, là. Puis qu'à un moment donné, tu arrives comme cette phrase-là dans Jérémie, où il dit « Car mon peuple a commis un double péché, et ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Peut-être que tu es devenu anémique, ta carence de fer spirituelle. Tu dis « Ben voyons, je sais pas ce qui se passe dans ma vie spirituelle. J'ai juste plus le goût de rien à force de te nourrir d'autre chose que Jésus. » Peut-être que ta principale source, il y a beaucoup de peut-être, hein, peut-être, mais il y a peut-être que c'est un gros peut-être, que ta principale source de nourriture spirituelle à matin, c'est ça devient Facebook ou Instagram, ou que finalement, tu te contentes juste de des petits encadrés de versets, puis là, ça devient comme ton repas complet, et que finalement, te plonger dans la parole, ça devient pénible, difficile, c'est toujours pas évident. Comment savoir si tu es en train de dormir? Tu sais par qu'est-ce que tu as le goût de te nourrir? Vraiment. J'aime cette question-là de John Piper. Si jamais tu savais que Jésus ne sera pas au ciel avec toi, as-tu le goût d'y aller quand même? La vie éternelle, la vie abondante... Plus de souffrance, hein? plus de faim, plus de pleurs, mais pas de Jésus. Ça, c'est un bon indicateur. C'est un bon indicateur. Quand tu ouvres ta parole, est-ce que tu as le goût de la lire? Est-ce que tu as le goût de la partager? Est-ce que quand tu fais Ah oui, j'ai le goût de mordre dedans, là, tu sais, vraiment, littéralement. Est-ce que ton émerveillement de Jésus est terni? Bien, ça se peut que ça soit normal. 1 Corinthiens, chapitre 2, 14, dit que l'homme naturel reçoit rien des choses spirituelles. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est comme un enfant que tu essaies de donner des légumes. On sait bien que les légumes, c'est essentiel pour un équilibre alimentaire, mais pas toujours évident. Je dirais, vas-y, plonge, goûte, habitue-toi, réhabitue-toi. Sais-tu ce qui est merveilleux avec le passage qu'on a là? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne ressaisit pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mets succulents. Jésus est toujours là, les bras ouverts. Il dit, viens-t'en, la table est mise, on t'attend. On t'attend. Tu as juste à venir à lui. Comme ça. Et peu importe le nombre de sacs de chips spirituels que tu as pris, peu importe le nombre de bouteilles de Pepsi ou tout ce que tu voudras, ça aucune importance, viens à Jésus, là, tel que t'es, comme ça. Wow! De la belle pro au banquet de l'agneau. C'est la première invitation qu'on voit dans notre passage. Une invitation à vivre un réveil quotidien où je me délecte au banquet de l'agneau. On continue avec le verset 3, où on passe de la mort perpétuelle à la vie éternelle. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. C'est nous, ça! Wow, c'est nous, là! Les Québécois, à Longueuil, nous sommes des nations qui ne connaissaient pas Jésus et qui accourent à lui, à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Le jour où on répond à l'invitation de Jésus, le menu ne va pas juste changer, là. Tout change. C'est la vie entière qui prend une autre direction. Je nais. Je suis vivant. Écoutez et votre âme vivra. Mais tu sais, Jésus disait en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de... la mort à la vie. La mort à la vie. C'est le miracle. On passe de cette mort perpétuelle à une vie éternelle. Mais le problème avec la mort, on ne le sait pas. Quand tu es mort, tu n'es pas conscient que tu es mort. il y a plusieurs années, il a fallu que j'aille identifier mon papa. Il était décédé. Il est décédé dans l'ambulance. Puis à l'hôpital, il a fallu que j'aille l'identifier. Et c'était vraiment bizarre parce que il était couché. Mon père était un blagueur, fait qu'il était couché sur le dos. Puis j'avais l'impression qu'il me fait bouh. Je me disais, c'est une blague. Il va me faire peur. Il va me faire une blague, là. Non, il était mort. Il était vraiment mort. J'ai même touché mon père. Il était encore tiède, là. Mais il était mort. Il avait l'air d'être vivant. Une apparence. Mais il était mort. Paul dit aux Éphésiens, « Alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est un cadeau. Cette vie-là que Dieu nous offre est un cadeau, une grâce. Et c'est pour un mort d'entendre la voix de Jésus. C'est quelque chose d'exceptionnel. C'est un miracle. Un miracle. C'est pas naturel. L'homme naturel est incapable de comprendre et d'entendre la voix de Dieu. Donc, juste d'entendre sa voix, c'est quelque chose. Si un matin, tu entends la voix de Jésus, Jésus te parle, là, c'est un miracle. Parce que naturellement, c'est pas supposé arriver. Mais ça arrive parce que Dieu est gracieux. C'est dans sa grâce. C'est un beau cadeau qu'il nous fait pour un mort d'entendre quoi que ce soit. Cet appel-là va être dirigé vers toutes les nations. Mais ce matin, si tu entends la voix de Jésus, c'est un miracle en soi. Comme il dit ici, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, Hébreux 3:7, il dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » En fait, le réveil, c'est quand je réalise mon état. Quand je réalise qui je suis vraiment, à quel point, si je suis réveillé, à quel point c'est miraculeux pour moi qui étais mort d'entendre sa voix. Et même, je dirais, après 35 ans de vie chrétienne, c'est toujours un défi de réaliser à quel point j'étais mort. C'est pas si évident que ça que j'étais vraiment mort. Des fois, on a l'impression qu'on était juste comme en sommeil et que Jésus nous a juste comme réveillés. Non, il nous a ressuscités. Il nous a ressuscités ensemble, Éphésiens 2:6, hein? Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Prêtez l'oreille, écoutez et votre âme vivra. Vivre un réveil quotidien, c'est dire, « Wow, pincez-moi, je suis vivant. Je suis vivant. » Je me souviens de ce pasteur-là en Colombie, dont l'église était située juste en face, je dirais, du QG d'un des cartels de la drogue là-bas, et qui, lui, en chair, dénonçait toujours le trafic humain et le trafic de drogue que les gars, l'autre bord de la rue, faisaient. Et il y a eu des menaces de mort. Et là, à un moment donné, on lui a dit, « T'as pas peur de mourir? » Et savez-vous qu'est-ce qu'il a répondu? « Je suis éternel. Je suis éternel. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est arrêter mon corps. Mais moi, je suis éternel. » Et savez-vous quoi? Un jour, il y a quelqu'un qui a donné un rendez-vous à l'église. Un faux rendez-vous, et on l'a retrouvé avec deux balles dans la tête. Bang, bang! Sa femme, quand elle l'a vu, elle s'est rappelée le psaume, « Est précieuse aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. » Et cet homme-là est avec Jésus. Il est éternel. La question, c'est, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant que je suis en vie? » Je me lève le matin et je ne suis pas juste réveillé. Je suis vivant. Vivant! « Wow! Je suis passé de la mort perpétuelle à la vie éternelle. Gaspillons pas le temps qu'on a dans cette petite fenêtre-là, le temps qu'on est ici. De quoi je me nourris? Est-ce que je réalise combien je suis vivant? » Et on continue. On est au verset 6, où on passe de la condamnation finale au pardon total. C'est cette invitation-là que Dieu veut nous faire pour vivre ce réveil quotidien, un réveil permanent. Que je réalise que j'ai... on va lire. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité abandonne ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » Wow! L'invitation est assez claire. Et en même temps, on voit une facette du visage de Dieu, un Dieu qui a pitié, un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, un Dieu qui lance une invitation claire, « Mais dépêche-toi, s'apprête, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le pendant qu'il est prêt. » Parce que Acte 17, 31 dit, « Il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Et ça va arriver un jour. On répond à l'invitation de Jésus quand on réalise qui on est. Quand je réalise que je suis un pécheur, oui, que j'ai... Je suis un pécheur devant Dieu. C'est là que je réponds à l'invitation de Jésus. Vous savez, on vit le pardon seulement quand on réalise qu'on en a besoin, dans tous les domaines, que ce soit face à Dieu ou face les uns avec les autres. On va vivre le pardon quand on réalise qu'on en a réellement besoin. Quand on réalise qu'on a réellement offensé la personne devant nous ou le Dieu qui est là, et là, on est prêt à vivre le pardon. On est prêt à faire contrition, si on pourrait dire. Et quand on lit le verset 7, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, ben, on aurait l'impression qu'Ésaïe là, est en train de nous parler de... Il y a une vision là, de d'Al Capone, puis de Charles Manson, puis d'Adolf Hitler. C'est le genre de personne méchante, là, vraiment méchante. Là. C'est pas nous autres, ça, hein? Ouais, on rit, là, mais c'est vrai qu'on a de la misère à se voir avec l'œil de Dieu. Ce qui fait que finalement, cet appel-là de pitié et de Dieu qui ne se lasse pas de pardonner devient quelque chose d'un peu comme un petit raisin sec. Ou que, ouais. Mais dans le fond, un peu comme disait la pub, je le vaux bien. Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme, Psaume 53:2. Pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu, eh bien, constat, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et notre époque d'individualisme refuse cette réalité-là. On n'en veut pas. On ne veut pas voir les choses telles qu'elles sont. On ne veut pas comprendre puis connaître qu'on est vraiment un pécheur devant l'Éternel. On commence à s'endormir puis à mourir au réveil quand on commence à se sentir juste par nous-mêmes. Et ça peut arriver même si tu es déjà chrétien. À un moment donné, tu fais des réalisations, puis tu as l'impression que, finalement, on n'est pas pire. On est bon, franchement. Écoute, c'est pas long, là. Apocalypse 2:2, tu es avec une église naissante, là, qui s'appelle Éphèse, pas rien, là. C'est pas une petite église de rien. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, une église qui prend position, une église qui persévère, une église qui travaille, qui œuvre pour le Seigneur. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom. Wow! Tu ne t'es point lassé. Mais là, j'ai quelque chose contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Vivre le réveil quotidiennement, c'est de réaliser qui je suis vraiment. Mais surtout, de jamais l'oublier. De jamais l'oublier. Pour remettre à Dieu tout le bénéfice et la gloire de ce cadeau qui est le pardon total, je dois réaliser que je suis un pécheur total, que je méritais juste une condamnation finale. Quand je réalise ça, il y a un changement. Je suis un racheté. Et là, je n'ai pas juste la liberté comme un vivant. J'ai la liberté parce qu'il n'y a plus rien qui m'enchaîne. Wow! Ma vie est un réveil. Parce que maintenant, plus rien ne peut me condamner. Christ m'a libéré. Qui condamnera les élus de Dieu? Il n'y en a pas de réponse. On continue. Donc, le menu, la vie, le pardon. Et là, parlons de Dieu. On passe de l'ignorance profonde à l'assurance féconde. C'est cette invitation-là de rencontrer Jésus. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. On peut en passer du temps pour essayer de comprendre Dieu. Mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Mes pensées sont élevées et sont comme ailleurs que vos pensées. Dieu, il n'y a pas de mots, là. La langue française, et tu aurais beau chercher dans toutes les langues de la planète, il n'y a pas un mot assez gros et pesant pour dire comment Dieu est. Bon, il est big. Bon, trois lettres. On pourrait se forcer. Il est incroyable. Non, non. Parce que l'être humain n'a pas été créé pour comprendre Dieu. On n'a pas été créé pour le comprendre. On n'a pas été créé pour expliquer. Tu sais combien de fois qu'on demande à Dieu pourquoi? Pourquoi mon neveu est mort? Pourquoi un tel a fait ça? Pourquoi il y a de l'injustice sur la terre? Et pourquoi, là, il s'additionne et il se multiplie? Comme si on était en train de demander à Dieu, justifie-toi! Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu as fait là, là? Combien de fois on a cette attitude-là? Comme si on était en train de mettre Dieu sur le banc des accusés. Allez, explique-moi. Et là, des fois, j'ai l'image de Job. Tu étais où? En le grand, quand je t'ai, comme mettons, créé la terre ou. L'être humain n'a pas été créé pour comprendre Dieu, mais pour faire un avec lui, avoir une relation avec lui. Tu sais, j'aime ce verset de Jérémie 9:4 qui dit que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. De savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. C'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. De me connaître. Le mot « connaître » ici, là, c'est le même mot qu'on utilise quand on dit « Adam, connu Ève ». Cette connaissance, cette intimité-là où les deux font une seule chair, et là, on est dans un état fusionnel où vraiment on est lié avec Dieu. Pas étonnant que l'Église, qui est l'ensemble de ceux qui ont répondu à l'invitation, soit appelée l'épouse, parce qu'on est comme ça avec lui. On est comme ça avec Dieu. Dieu est trois fois saint, hein? Pas juste parce qu'ils sont trois, parce qu'il est tellement différent. Le mot « saint » veut dire d'une autre nature, d'un, à part, différent, mis à part pour un usage sacré, si vous voulez la définition. Mais Dieu est trois fois mis à part pour un usage sacré. C'est juste prendre des mots de notre vocabulaire pour essayer d'expliquer quelque chose qui est hors de la perception humaine. C'est qu'il est différent. Il n'est pas juste différent, il est autre. L'être humain ne pourra simplement jamais comprendre Dieu dans toute sa grandeur et sa splendeur. Et parce qu'on n'a pas été créé pour ça. On n'a pas été créé pour courir à 100 km/h. Vous pouvez essayer, bonne chance, je voudrais voir ça, mettez ça sur YouTube, on va rire en masse. Mais vous comprenez qu'avec un guépard, là, j'ai vu une vidéo là, où les gars se déguisent en zèbre. T'sais, tout, quelle bonne idée, en pleine savane africaine. Ben, il y a deux lions qui sont partis après eux autres. Les gars couraient vite, mais il manquait un petit peu d'impulsion. Finalement, ils sont partis avec la tête en peluche du zèbre. Ils pensaient que les lions, eux, pensaient qu'ils avaient fait une bonne affaire. Merci Seigneur, les gars, on s'en sont sortis vivants. Mais je pense qu'ils ont eu la frousse. Ils ont compris qu'il y a une limite. Il y a une limite, là. Bien, il y a une limite aussi dans notre compréhension de Dieu parce qu'on n'a pas été créé pour poser des questions comme ça, dire « Hey, t'étais où, toi? Qui t'es? » On est là pour jouir de Dieu, vivre en lui. Que lui vive en nous. Pourquoi vous pensez que Dieu vient en nous? Cette semence-là spirituelle est en nous. Hey, c'est profond, là. C'est quelque chose. C'est à la fois mystérieux et glorieux. De dire, wow, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et ce Jésus-là veut se glorifier à travers nous. Wow! Le réveil, j'ai marqué ça, le réveil au quotidien est un paradoxe. Plus je m'abandonne à lui, plus ma relation s'intensifie. C'est comme une espèce de roue comme ça. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans avoir exécuté ma volonté, sans avoir accompli mes desseins. Encore sa parole. Avez-vous vu depuis le début comment la parole de Dieu est centrale dans cette invitation-là au réveil? Hein, me nourrir de sa parole, vivre par sa parole, croire à sa parole pour passer de condamné à racheté, et là, se plonger dans sa parole à travers Jésus, parce que la parole de Dieu est vivante, c'est Hébreux 4, 12, hein, la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça se passe à l'intérieur. Vous imaginez le genre de relation qu'on a avec Dieu. Dieu veut qu'on passe de l'ignorance profonde à cette assurance-là féconde dans une relation intime et fusionnelle avec lui. Il y a un abandon de la logique humaine pour laisser place à celle de Dieu. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai remis dans mon post-it ici, Luc 10. Ah. En ce moment même, Luc 10, 21, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, « Je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants. » Ah oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Dieu veut que ça se passe de même, qu'on s'approche de lui comme un enfant. Papa, papa, je ne veux pas savoir d'où vient ton argent. Papa, j'ai juste besoin de toi. Papa, c'est pas compliqué. C'est une invitation. Une invitation que Dieu nous fait ici. La dernière invitation est assez bizarre, parce que c'est un peu comme le résultat des quatre autres. On passe d'un blues déprimant, mais c'est un musicien qui parle, à une louange vivante. Un blues déprimant à une louange vivante. Et le verset 12 d'Ésaïe 55 est là, dans toute sa gloire, il dit « Oui! » Ça commence comme ça. « Oh oui! Oh que si! » Vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Une façon de traduire ça, c'est « vont exploser de joie ». C'est le feu d'artifice de louange. Le mot est utilisé pour dire la louange, chanter, être dans l'allégresse. L'allégresse, c'est ce sentiment, c'est pas juste profond, là, c'est « wow, 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 wow ». Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine, s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce, croîtra la myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel et impérissable. C'est le party! Et pour Dieu, c'est une gloire. C'est une façon qu'il a de s'exposer dans l'univers, pas parce qu'il se pense meilleur, parce qu'il est Dieu. C'est juste comme ça. Luc 15, 10, Jésus dit, il y a de la joie dans le ciel, devant les anges de Dieu, pour un seul pécheur qui se repent. La joie, hein, cette espèce de sentiment-là, de plénitude en Dieu seul, c'est l'adoration. C'est ce qui amène aux éclats d'allégresse, qui fait exploser en chant de joie. Quand je vis un réveil quotidien, j'éclate de joie, j'explose en chant joyeux. Dieu explose en moi, on pourrait dire. C'est comme un feu d'artifice. Quand je rencontre Jésus et décide de répondre à son invitation, c'est le party. C'est le party dans le ciel. C'est le party dans mon cœur. C'est la joie profonde, là. Le ciel est en joie. Les arbres battent le rythme parce que c'est la gloire de Dieu qui est exposée. Ce qui était impossible aux hommes était possible à Dieu. Ce qui était impossible et incroyable qu'un pécheur puisse donner sa vie à Jésus, qu'un mort puisse devenir vivant, qu'un gars qui mange de la belle pro mange du festin de l'agneau. Bien maintenant, c'est possible grâce à Dieu. C'est le party. Le but de Dieu, c'est justement de se faire un peuple d'adorateurs qui vont exposer toute sa gloire. Pourquoi? Bien, parce que c'est logique. C'est juste. C'est ce qu'il faut. Dieu est Dieu. Il est jaloux de sa gloire. Il ne la donne pas à personne d'autre. C'est sa gloire à lui. Et il veut qu'on puisse l'exposer pour espèce d'être un canal de cette joie-là et de vivre la joie de Dieu au travers des chants, à travers notre vie. Tu sais, vivre le réveil, c'est de passer d'un blues déprimant au chant de louange vivant. Et là, on va chanter la louange avec la gang Anthony et les amis, si vous voulez me rejoindre. C'est l'élan du cœur qui fait toute une différence. Tantôt, on va chanter la louange. Tu sais, puis, tu sais, j'ai quelques versets là, de David. Il dit, bon, psaume 119, 171, il dit que mes lèvres publient ta louange. Pourquoi? Car tu m'enseignes tes statuts. Wow! Le Seigneur m'enseigne sa volonté, et là, mes lèvres publient sa louange. Psaume 71, 23, il dit, en te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres, la joie dans mon âme, parce que tu m'as délivré. Oh, quand je réalise à quel point Dieu m'a délivré, j'ai de la joie. Ça se transforme en louange. Hébreux 13, 15 dit, par Jésus, offre donc en tout temps à Dieu, en tout temps à Dieu, aujourd'hui, demain, après-demain, en tout temps à Dieu, un sacrifice de louange qui constitue à célébrer son nom. Vive le réveil, c'est la conscience qui s'exprime en reconnaissance. Ce réconfort de savoir à quel point Dieu est là, Dieu nous aime. Je vais te poser une question. Comment va ta louange à matin? C'est le thermomètre de ton réveil. C'est ton thermomètre. Le texte le montre clairement. Quand tu es passé de la belle pro au festin de l'agneau, de la mort à la vie, que tu es pardonné, que tu connais Jésus avec cette assurance féconde, il y a une joie qui s'installe, une paix profonde. Tu passes, comme le texte dit, des épines aussi près. Tu sais, une épine, vous avez déjà vu ça, tu sais, on voit ça, ce qui était sur la tête de Jésus là, quand ils l'ont crucifié, là, c'est vraiment des épines. Là, tu sais, c'est pas des petites affaires. Il n'y a rien de beau là-dedans. Le cyprès, c'est un beau petit, comment on dit, c'est un genre de cèdre. C'est super cute. C'est beau, là. C'est vraiment mignon. T'es-tu une épine ou un cyprès quand tu loues le Seigneur? Une ronce ou une myrte? La ronce, c'est un arbuste à fruits. Mais il y a des fruits, mais fais attention quand tu vas chercher les fruits. Ils sont là, mais c'est un arbuste plein de pic-pic. Fait que, les fruits sont là, disponibles, mais... Ou la myrte, qui est un petit arbuste tout innocent, rempli de petits fruits qui ressemblent à des bleuets et qui sont prêts à être cueillis. Est-ce que tu es un genre d'adorateur grumpy ou happy? C'est une question de point de vue. Je te laisse avec le psaume 34, 5. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se tourne pas de honte. Peut-être qu'à matin, ton corps aurait besoin de double espresso l'autre bord au café crème. Mais moi, je vais aller ailleurs, là. Comment va ton réveil à l'intérieur de toi? Comment ça va avec Jésus? Est-ce que tu es prêt à changer de menu? Dis non, c'est fini, là. Là, je vais passer au menu de la parole de Dieu. Est-ce que tu es prêt à dire, oui, je vis. Je réalise combien j'étais mort et maintenant, je veux vivre pour lui. Wow! À partir de là, quand je passe la porte qui est là, je vais me comporter comme un être vivant. Pas comme une espèce de zombie. Tu sais, oui, je connais Jésus. Oui, avec une tristesse. Comme Gandhi disait, vous dites que vous êtes sauvé, si seulement vous aviez l'air sauvé. C'est pas très convaincant. Tu vis la liberté, t'es Tu es pardonné, racheté dans une nouvelle relation avec Dieu ou une fusion, le Christ en moi. Wouh! Il y a de quoi éclater de joie. N'est-ce pas? Est-ce que tu es prête à nous emmener? Est-ce que tu es prête à nous emmener dans la louange, Anthony? Ah oui. Est-ce qu'on est prête à louer le Seigneur? De faire exploser cette joie-là à l'intérieur. On va prier. On va se lever. Je vous invite à vous lever. J'invite le reste de l'équipe. Et Seigneur Jésus, on veut vivre en gens réveillés. Seigneur, on a tout ce qu'il faut pour être réveillé parce que tu es là à l'intérieur. On te demande, Seigneur, d'ouvrir les yeux de notre cœur, de nous éclairer à l'intérieur, que ce ne soit pas les ténèbres à l'intérieur, mais que ce soit une lumière resplendissante, qu'à chaque jour, on vive un réveil constant, permanent, profond, et que ce soit un réveil où la lumière est un feu d'artifice de joie, où ceux vont dire, quand ils vont voir nos bonnes œuvres, vont dire, waouh, Dieu est vraiment au milieu d'eux. Seigneur, merci pour le miracle. Merci pour ta vie. Merci, Seigneur, d'être là à l'intérieur. C'est notre gloire, mais c'est ta gloire à travers nous. Glorifie ton nom, Seigneur. Et là, on veut te chanter. On ne veut pas s'arrêter au style. On veut, Seigneur, s'arrêter à ce que tu as fait dans notre vie et te l'exprimer ensemble d'une seule voix, d'un seul cœur, vers toi, comme un chant d'allégresse, un chant de joie. Parce que tu es grand, Seigneur. C'est en ton nom.